les documents de la grenouille. Tous les podcasts des 3-8, radiogrenouille.com.
Une fois n'est pas coutume sur Radio Grenouille, vous entendez quelques grenouilles. Oui, nous ne le faisons pas souvent, mais parfois il faut les entendre car elles sont nombreuses, ces grenouilles. On dit grenouilles au pluriel. On se dit il y a une espèce de grenouille et puis elles sont nombreuses. Mais non, il en existe beaucoup des grenouilles. Grenouilles agiles par exemple, grenouilles d'Albanie, grenouilles arboricoles, grenouilles arboricoles d'Afrique, grenouilles des Balkans, grenouilles de bergers, grenouilles des bois, grenouilles des champs, grenouilles des montagnes à pattes jaunes ou encore grenouilles des marais, grenouilles maculées de Columbia, grenouilles pisseuses, oui ça existe, grenouilles du Nord, grenouilles mugissantes par exemple encore, ou grenouilles à queue côtière, voilà, il en existe plein. Sans doute suis-je déjà en train de commencer de faire une analyse de biodiversité. Ou encore autrement, comme ça, par exemple. L'étreinte, je t'aime moi non plus. Là aussi, et vu comment parler de biodiversité sans parler des rapports sexuels, oui, la reproduction des espèces, sans doute. Voilà, l'amour est en jeu. Alors pourquoi je vous parle de biodiversité ainsi? Sans doute vous posez cette question, eh bien parce que nous avons dans les studios Thierry Tatoni. Bonjour Thierry Tatoni.
Bonjour.
Qui est professeur, écologue, spécialiste de la biodiversité, qui est également directeur de l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et continentale. Avec nous également dans les studios, un collège d'étudiants qui sont là en observateurs critiques, je l'espère, étudiants en sciences de la nature en premier cycle à l'université Aix-Marseille. Alors Thierry Tatoni, je commençais comme ça, biodiversité, à la fois un travail de classification, de taxonomie, et puis à la fois cette question de la reproduction des espèces. Est-ce que j'ai commencé à faire un peu de biodiversité là?
Oui, un petit peu, en faisant une énumération de toutes les grenouilles, on rentre dans, on va dire, ce qu'il y a de peut-être plus facile d'accès dans la biodiversité. Mais la biodiversité, c'est beaucoup plus large que ça. En gros, c'est toutes les formes d'expression de la variabilité du monde vivant. Mais ça va un petit peu au-delà de ça, parce que derrière la biodiversité, il y a aussi un concept. C'est-à-dire, c'est pas que le vivant qui s'exprime dans sa diversité, c'est aussi tous les enjeux qu'il y a autour de la préservation de ce vivant, de la préservation de ses ressources. Donc depuis Rio 92, depuis Rio 1992, la biodiversité est devenue vraiment une préoccupation, une notion, et puis peu à peu un concept pour aborder les ressources du vivant.
Alors quand on parle biodiversité, est-ce qu'on parle tout de suite de la nature ou pas? Est-ce que comment attraper le concept de biodiversité? Est-ce qu'il faut l'attraper avec celui de nature ou pas du tout?
C'est forcément associé. La nature est, on va dire, est le support de la biodiversité, mais ce qui a vraiment donné du corps à la biodiversité, c'est la relation qu'a commencé à entretenir l'espèce humaine avec la nature. Pour faire très court, s'il n'y avait pas eu d'espèce humaine, on n'aurait jamais parlé de biodiversité, on aurait parlé du vivant. La biodiversité, c'est la préoccupation de biodiversité est née vraiment de la relation de plus en plus conflictuelle entre les activités humaines et cette fameuse nature. Dès l'instant qu'on part du principe qu'on sort l'espèce humaine de la nature, ce qui est tout à fait discutable parce que l'espèce humaine fait aussi partie de la nature, et même souvent je le rappelle, et l'espèce humaine est régie par les mêmes lois que toutes les autres espèces naturelles, et on a tendance à l'oublier, et de temps en temps la nature nous le rappelle de différentes formes, et c'est pour ça que c'est plus pratique, plus pédagogique de séparer la nature de l'homme, mais il faut savoir que dès le départ qu'on fait une petite approximation qui n'est pas forcément juste.
Mais si vous parlez de conflit, c'est que déjà on n'est plus tout à fait dans la question scientifique, on est déjà basculé dans la question politique.
Alors les relations conflictuelles, parce que a priori, il devrait pas y avoir de relations conflictuelles. Ce qui nous alerte sur le conflit qu'il peut y avoir entre les activités humaines et cette fameuse nature, c'est que visiblement, on est dans une dynamique de perte de biodiversité. À la limite, on s'en fiche que les espèces disparaissent, on peut très bien dire que c'est pas grave. Le problème, c'est qu'avec ces espèces qui disparaissent, disparaît aussi toute une forme de ressources naturelles. Et à terme, on risque de se retrouver dans une situation où nos besoins fondamentaux ne pourront plus être assurés parce qu'on aura perdu cette fameuse ressource naturelle qui est apportée par la biodiversité. Dès lors, on a cette relation conflictuelle. Alors, je sais que certains spécialistes des sciences humaines n'aiment pas qu'on oppose les activités humaines par rapport à la nature. Là, il ne s'agit pas vraiment de les opposer, il s'agit juste de constater qu'on risque d'avoir un petit problème d'adéquation entre les besoins de l'espèce humaine et les ressources naturelles.
En somme, c'est plutôt l'espèce humaine qui est menacée que la biodiversité. Elle existera toujours, la biodiversité.
C'est ce que c'est aussi que lorsqu'on travaille sur la biodiversité, on est anthropocentré au maximum. C'est-à-dire, lorsque moi je me préoccupe de la biodiversité, en fait, je suis un super égoïste. Je me préoccupe de mon avenir. Et effectivement, quoi qu'on fasse, la nature arrivera à s'exprimer. Le problème, c'est qu'elle va s'exprimer sous des formes qui risquent de ne pas convenir à ce qu'on attend, nous, de la nature.
Bonjour, monsieur Tatoni.
Bonjour.
Donc, je m'appelle Antoine, je suis étudiant. Ma question est la suivante. Lorsqu'on oppose, donc, comme vous l'avez dit, les activités humaines, disons l'homme et la nature, où est-ce qu'on fait s'arrêter l'homme, où est-ce qu'on fait s'arrêter la nature quand on sait que l'homme modifie les écosystèmes et inversement, on amène une forme de nature en ville. Où est-ce qu'on fait s'arrêter la frontière ?
Alors c'est vrai que la frontière, elle n'existe pas en tant que telle. Encore une fois, l'homme fait partie des processus naturels et le fruit aussi de l'évolution. Mais il faut quand même avoir un petit peu de recul et constater que l'homme a un impact sur l'environnement qui est quasiment sans précédent par rapport à tous les impacts qu'ont pu avoir les autres espèces par le passé. Donc il faut faire ce constat-là, on a une capacité à modifier notre environnement qui est très forte. Bien sûr, il pourrait y avoir tout un lot d'activités humaines qui sont parfaitement compatibles avec la nature. Et d'ailleurs, le challenge, lorsqu'on fait de l'écologie, on a envie de montrer qu'il peut y avoir une relation un petit peu plus harmonieuse entre les activités humaines et la nature. Encore une fois, il faut sortir du schéma où la nature est gentille, l'homme est méchant. Simplement, il faut aussi être un petit peu, honnête et reconnaître que les activités humaines nuisent globalement à une bonne partie de ce qu'on va appeler la nature.
Alors là, on est dans des conflits, d'une certaine manière, entre l'impératif économique d'un côté, puis l'impératif de protection de la biodiversité. On est aussi dans une question politique et j'imagine que vous, en tant que scientifique, les politiques se retournent vers vous en disant « Scientifique, trouvez-nous des solutions, que peut la science ?»
J'aimerais que ce soit comme ça, mais ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire, on fait partie de la recherche publique, on est des scientifiques et quoi qu'on dise, un chercheur cherche et il trouve toujours. Il ne trouve pas forcément ce qu'on attend qu'il trouve, mais on trouve toujours. Le problème, c'est que les problèmes environnementaux et l'écologie et la biodiversité sont devenus un petit peu des instruments de lobby, de pouvoir, dans lesquels, finalement, le scientifique n'a quasiment pas sa place actuellement. Lorsque les politiques veulent aborder les problèmes environnementaux, ils vont s'adresser souvent aux ONG, aux associations, mais très rarement aux scientifiques. Le scientifique, la plupart du temps, peut avoir des réponses, effectivement. Enfin, ça fait un petit peu orgueilleux de dire ça, mais les scientifiques en écologie cherchent beaucoup et on trouve beaucoup. On a fait d'énormes progrès sur la compréhension de la biodiversité, mais on n'est pas souvent, à mon avis, pas assez souvent sollicité pour aider le politique, l'aménageur, à avancer de manière un petit peu plus rationnelle par rapport à la biodiversité.
Alors j'aimerais qu'on parle justement de quelques notions plus ou moins grand public, comme l'agenda 21. Alors si je regarde la carte des palmarès de France publiée par le magazine La Vie, je vois que par rapport au respect de l'agenda 21, les Bouches-du-Rhône arrivent 19e. L'agenda 21, qu'est-ce que c'est ? C'est justement une combinaison scientifique-politique ?
Alors c'est pas vraiment ma spécialité, mais l'agenda 21, c'est quand même essayer de concevoir un aménagement du territoire qui s'inscrirait plutôt dans une logique de développement durable pour ce fameux 21e siècle. Donc il y a tout un lot de mesures qui seraient à prendre, ou du moins d'incitations, pour essayer de retrouver une certaine forme de relation harmonieuse entre les activités humaines, la planification de ces activités humaines et la préservation de l'environnement en général.
J'avais cru entendre que vous étiez assez content de la notion « la trame verte et bleue ».
Oui,
qu'est-ce que c'est ?
La trame verte et bleue, c'est essayer de redonner, c'est comment essayer de redonner un maximum d'espace naturel dans des espaces qui sont fortement contraints par les activités humaines, à savoir les agro-systèmes, les zones de culture et les systèmes urbains. Alors, l'idée, c'est redonner de l'espace sauvage Et pour cela, sans trop grignoter sur ces agricultures, sans trop grignoter sur ces espaces urbains. Donc comment on peut essayer de façonner quelques, on appelle ça des corridors, on appelle ça des couloirs pour que la nature sauvage puisse passer. Mais globalement, c'est comment mettre un petit peu de vert, un petit peu de partout dans le territoire, sans pour autant trop grignoter sur des activités humaines dont on a besoin, parce que c'est bien beau d'avoir un discours de dire qu'il ne faut pas que l'homme détruise la nature, mais l'homme, il faut qu'il habite quelque part, et on ne fait pas mieux que les villes pour faire habiter l'homme. Il faut que l'homme, il se nourrisse aussi, et finalement, plutôt que d'aller chasser et cueillir de partout, c'est pas mal qu'il ait des champs pour cultiver. Donc il ne s'agit pas de rayer l'agriculture de la carte, il ne s'agit pas de rayer les villes, il faut voir comment, dans ce maillage-là, on peut insérer un petit peu plus de nature. C'est d'où l'idée de la trame verte, et le bleu, c'est pareil, mais pour les milieux aquatiques.
Tout prochainement à Marseille, il y aura un brainstorming séminaire organisé par le groupe Dune qui aura pour titre Ville Nature, Marseille entre deux, Marseille entre elles deux. On y est là dans le sujet là.
On est complètement dans ce sujet parce que je fais partie de ceux qui pensent que les villes doivent exister. Enfin, bien souvent, l'écologue de base, plutôt l'écologiste militant, va stigmatiser sur les villes. Mais la ville, c'est l'endroit où vit l'espèce humaine. Après, il faut que ce serait bien que cette ville soit le plus biodiversité compatible, ou du moins soit la plus compatible avec les impératifs naturels.
If you visit American City, you will find it very pretty. Just two things of which you must beware. Don't drink the water and don't breathe the air. Pollution, pollution, we got smog and sewage and mud. Turn on your tap and get hot and cold running crud. See the halibuts and the sturgeons being wiped out by detergents. Fish gotta swim and birds gotta fly. But they don't last long if they try. Pollution, pollution, you can use the latest toothpaste and then rinse your mouth with industrial waste. Just go out for a breath of air and you'll be ready for Medicare. The city streets are really quite a thrill. If the hoods don't get you, the monoxide will. Pollution, pollution, wear a gas mask and a veil. Then you can breathe long as you don't inhale. Lots of things there that you can drink, but stay away from the kitchen sink. Throw out your breakfast garbage, and I've got a hunch that the folks downstream will drink it for lunch. So go to the city, see the crazy people there, like lambs to the slaughter. They're drinking the water and breathing the air.
Tom Lehrer qui tousse à la fin de cette chanson Pollution, on entend déjà le mot smog. Smog, on pense en Chine, non, n'est-ce pas? Parce que là, on est en train de parler justement de la question. On est dedans sur les métropoles et la question aussi de la pollution. D'ailleurs, si on regarde un peu cette fameuse carte donc, du magazine La Vie, je vous invite à aller sur le site du magazine La Vie qui a une carte interactive. Et si on regarde donc, la question de la qualité de l'air, Marseille arrive 96e, c'est-à-dire dernier sur le territoire français. Voilà, il faut le dire sur la qualité de l'air. Pas étonnant, monsieur.
Ah non, pas du tout étonnant, dans la mesure où d'abord, je crois que c'est la première ville en France en termes d'embouteillage. Donc déjà, c'est déjà pas mal. Puis on est complètement sous le vent, sous l'effet du complexe industriel de Foss. Ce qui veut dire que c'est forcément, on a un des airs les plus pollués de France. Et même si le Mistral nous aide à évacuer un petit peu tout ça, à l'arrivée, c'est quand même terrible ce qu'on respire chaque jour.
La qualité de l'air, ça peut jouer sur l'érosion de certaines espèces ?
Ça peut, parce qu'il y a certaines espèces qui ont du mal à s'acclimater, à s'adapter à un changement atmosphérique qui est assez brutal. Un changement atmosphérique, c'est-à-dire un changement de la qualité de l'air. L'air est devenu chargé en différents types d'éléments qu'on ne connaissait pas même au milieu du XXe siècle. Donc en quelques années, la qualité de l'atmosphère a changé. Il y a certaines plantes, par exemple, qui ont du mal à s'adapter à ce changement d'air. Ne serait-ce qu'on parle souvent des lichens qui sont des indicateurs de pollution. Certains lichens ne supportent pas les taux de pollution, mais c'est aussi pas mal le cas d'espèces animales. Mais les espèces animales ont cette capacité de pouvoir fuir un végétal, c'est plus compliqué pour lui.
Vous parlez d'adaptation, mais on pourrait aussi employer le mot résilience.
Alors résilience, c'est une fois que l'agression, que la perturbation s'est arrêtée, c'est la capacité que vont avoir les systèmes écologiques, que ce soit une espèce ou un écosystème, à essayer de retrouver son équilibre. Là, on est plus dans la résistance que dans vraiment la résilience. L'adaptation, ça veut dire un changement. Un changement, là, on n'est pas dans la résilience, on est évolué vers autre chose. Peut-être que si ça continue comme ça, on aura des espèces de plus en plus polluo-tolérantes. Mais ça voudra dire que la sélection naturelle aura agi. Et de génération en génération, ben les espèces se sont adaptées. C'est possible, c'est peut-être dans quelques centaines, voire des milliers d'années, on aura toute une nature qui sera modifiée et qui sera adaptée à ces nouveaux environnements. Le problème, toujours ce que je dis, c'est qu'est-ce qu'on va faire en attendant que ça s'adapte ? Parce que ça risque de se traduire par une perte d'espèces assez importante.
Thierry Tatoni, je disais donc vous êtes spécialiste de la biodiversité. Si je regarde donc cette carte interactive du magazine La Vie et je regarde le classement de protection de la biodiversité, les Bouches-du-Rhône arrivent 15e. Alors, dites-nous un petit peu les grandes lignes de protection de la biodiversité en région.
Il y a plusieurs formes pour protéger la biodiversité. Il y a tout ce qu'on appelle le réseau des espaces naturels protégés. C'est tous les systèmes de parcs nationaux, parcs régionaux, réserves naturelles, espaces naturels sensibles. Ça, ce sont des sites qui sont gérés par le Conseil général. Il y a tout un lot de structures, de formes de protection, mais quoi qu'on fasse, ce n'est pas en délimitant des zones de protection de la nature qu'on va régler le problème de la biodiversité. C'est vraiment en s'inscrivant dans un changement de mentalité. On ne peut pas tout zoner, on ne peut pas tout protéger. Alors on peut s'expérimenter sur certaines zones qu'on protège, on peut mettre le paquet pour essayer de gérer, d'inventer de nouvelles formes de relations entre l'homme et la nature. Mais la vraie protection de la biodiversité, c'est changer nos habitudes, changer notre relation à la nature et arrêter de se comporter comme des rouleaux compresseurs sur cette nature.
Vous avez également étudié l'écologie des paysages, qu'est-ce que c'est ?
Alors l'écologie du paysage, c'est simplement essayer de changer d'échelle. Bien souvent, on raisonne en écologie, l'unité de base, on va dire, c'est l'écosystème, c'est-à-dire une portion d'espace sur laquelle vont interagir des communautés biologiques, des communautés vivantes avec un environnement donné. Le problème, c'est qu'un écosystème, c'est un système qui n'est pas isolé par rapport à son environnement, donc l'idée, c'est de travailler en complexe d'écosystèmes, c'est-à-dire un écosystème est forcément aussi dépendant de l'écosystème qui est à côté, et ainsi de suite. Pour ça, il faut changer d'échelle, travailler au niveau du paysage et raisonner en interaction.
Et la paléoécologie ?
Paléoécologie, c'est
C'est le moment dictionnaire.
Non, mais on peut y aller. C'est mon métier presque. C'est interroger le passé, c'est-à-dire l'écologie du passé. On s'en sert beaucoup de la paléoécologie, paradoxalement, pour essayer de prévoir le futur. C'est-à-dire on va rechercher dans le passé les différents types d'écosystèmes qu'il pourrait y avoir lorsque le climat était différent. Donc on reconstitue la dynamique des paysages, la dynamique des écosystèmes. Et en fonction de ça, lorsqu'on se projette dans l'avenir, on dit tiens, si les paramètres environnementaux vont changer, s'il fera plus chaud de tel degré, s'il tombera plus ou moins d'eau, à partir de là, à partir des référentiels qu'on a pu faire dans le passé, on peut arriver à extrapoler et dire voilà à quoi pourrait ressembler notre environnement dans le futur.
Donc toutes les analyses qui prévoient les augmentations de température ou ce genre de choses s'appuient sur la paléoécologie.
Oui, on a essayé de trouver des analogues dans le passé, on va les chercher assez loin. Alors bien sûr, c'est faussé dans la mesure où dans le passé, il n'y avait pas une telle activité humaine. Donc il faut après modérer ces modèles en fonction de l'activité humaine, et puis ne jamais oublier que la nature s'adapte aussi. Et c'est ce qui est dur dans les modèles de prédiction. Souvent, on arrive assez bien à prédire l'évolution du climat, ça c'est des données physico-chimiques, mais on n'arrive pas vraiment à prévoir l'évolution de la biodiversité en fonction des changements climatiques, parce que la nature s'adapte exactement comme vous l'avez dit au tout début, la petite chanson. À chaque fois qu'il y a reproduction sexuée, il y a brassage de gènes, il y a des mutations quelque part, et puis il y a possibilité de trouver dans les recombinaisons génétiques, possibilité de trouver là les clés des adaptations futures.
Donc vous êtes directeur de l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et continentale. Alors écologie marine, je regarde donc ma petite carte, qualité de l'eau, Marseille-Provence, Bouches-du-Rhône, arrive 18e.
Ouais, c'est une catastrophe aussi, mais ça on le sait pourquoi. Hein.
Pas 18e, ça aurait pu être 96e. Hein.
Oui, mais par rapport à ce qu'on pourrait faire, tout simplement parce qu'il y a les égouts de la ville d'un million et demi d'habitants qui se déversent au cœur du massif des Calanques. C'est l'émissaire de Cortiou. Alors, il y a eu, depuis le début des années 80, il y a un traitement physico-chimique qui est effectué, mais toujours pas biologique. Enfin, la station biologique est en place maintenant depuis 2 ou 3 ans, mais elle n'arrive pas à enrayer toute la pollution issue de tous ces gens qui habitent dans la métropole marseillaise.
Pourtant, le bassin méditerranéen est quand même un endroit de grande biodiversité, non ?
C'est assez phénoménal, oui. Je crois que de tête, la Méditerranée et le bassin méditerranéen correspondent à entre 1 et 2% de la superficie des océans mondiaux. Et là-dedans, on trouve quasiment 10% de la biodiversité. Donc le ratio est quasiment d'un facteur 10.
Donc tout va bien.
Est-ce que c'est, là, on met le pied. Si on démarre là, on a pour un petit moment. Là, on rentre de plein pied sur le paradoxe, ce qu'on appelle le paradoxe méditerranéen. Le bassin méditerranéen, que ce soit en niveau marin et au niveau terrestre, en prend plein la tête au niveau des activités humaines depuis des millénaires quasiment. Et la biodiversité arrive toujours à se maintenir. Ceci dit, actuellement, on est à une phase clé où on a pas vraiment beaucoup de pertes d'espèces, mais on a beaucoup d'espèces qui commencent à être représentées par des effectifs très faibles. Ce qui veut dire que pour une bonne majorité des espèces, on est ce qu'on appelle en biologie la conservation, on est au début de la spirale d'extinction. C'est-à-dire que la plupart des espèces qui sont assez remarquables sur le pourtour méditerranéen et même dans le bassin, dans l'eau, au niveau marin, commencent à avoir dépassé, sont en deçà des seuils critiques en termes d'effectifs, ce qui fait que si on continue comme ça, la plupart des espèces méditerranéennes devraient disparaître.
L'écologie des communautés, qu'est-ce que c'est ?
Les communautés, c'est le compartiment, on va dire, biologique de l'écosystème. Donc une communauté en écologie, c'est un ensemble d'espèces qui interagissent entre elles dans un environnement donné au sein de l'écosystème.
Vous êtes scientifique, Thierry Tatsoni.
J'essaye.
Eh oui. Mais à Groupe Dune, vous allez travailler avec des artistes.
Oui.
Mais qu'est-ce que peuvent vous apporter les artistes ?
Parce que les artistes, quelque part, on a, enfin, là, je vais un petit peu me la jouer, mais on a la démarche entre le scientifique et l'artiste se ressemble beaucoup. On est quelque part dans la création, on est dans l'innovation. L'artiste, il a quelque chose de plus que nous, c'est-à-dire il va essayer d'aller plus loin. Où nous, on va essayer de mettre de la rigueur pour valider nos démarches scientifiques, l'artiste va s'affranchir de cette rigueur et va explorer des univers que nous, on n'oserait pas aller explorer, mais qu'on a très envie d'explorer. C'est ça le paradoxe. Donc en travaillant avec des artistes, ils nous ouvrent des horizons, puis ils nous aident à remettre en perspective tout ce qu'on croit savoir, et à l'arrivée, ils nous feront progresser intellectuellement.
Et comment vous... Est-ce qu'on peut valider scientifiquement des recherches artistiques ?
C'est même pas le souci. Ce qu'on peut valider, c'est intellectuellement les interactions, parce que il y a la science qui doit s'appuyer sur un corpus de théories, de méthodes et de validations scientifiques. Ça, c'est à partir de ça qu'on va constituer tout un background ingénierial, on va dire. Toute la démarche de l'ingénierie repose sur ce background technique. Mais à côté de ça, il y a toute une évolution intellectuelle qui est très importante. Il faut que nos esprits s'ouvrent, il faut qu'on explore des domaines qui sont peut-être assez fous pour nous, mais dans lesquels peut-être il y a la solution. Pour ça, ce sont les artistes et les guides là-dedans.
Mmh. Et justement, le groupe Dune, c'est un groupe que vous connaissez bien.
Très bien.
Ça fait longtemps que vous les suivez. Donc vous avez suivi un petit peu l'expérience sur le toit. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de leurs travaux ? Qu'est-ce qui vous intéresse plus précisément dans leurs travaux sur le toit ?
Ce qui m'intéressait sur
le toit de la friche.
Sur le toit de la friche, c'est d'abord faire une expérience. C'est utiliser un lieu qui est très particulier. D'ailleurs, l'ensemble du programme s'appelle de cet endroit. C'est-à-dire de cet endroit, c'est comment on peut arriver à repenser la ville à partir d'un petit toit, parce que même s'il est très grand ce toit, à l'échelle de la ville, c'est pas énorme. Et comment à partir de ce qu'on fait là-haut, on peut commencer à repenser les relations qu'on peut avoir entre la nature et l'homme en ville. Alors sur le toit, ce qui s'est passé, ils ont voulu planter quelques plantes au départ. Nous, on a dit que ce serait bien d'y mettre un petit peu de scientifique derrière. On a fait des expériences très carrées, on a essayé de jouer le jeu, même la caricature du scientifique avec des protocoles très carrés. Et à l'arrivée, c'est assez génial parce que ça n'a pas marché du feu de Dieu ce qu'on a fait, même on peut dire que ça n'a pas trop marché, on voulait tester des substrats. Et ce qui paraissait comme un échec au niveau scientifique est devenu une réussite sur le plan artistique parce que les artistes se sont penchés là-dessus et ils ont remis en scène notre échec scientifique. Et la dernière fois que je suis monté, je trouvais ça assez extraordinaire. Ils ont rebondi et du coup, ils ont encore une fois réouvert d'autres univers. Alors que moi, j'étais au départ hyper déçu. Nos substrats ne marchaient pas, c'est pas grave. De toute façon, en changeant le regard, on peut trouver là-dedans une réussite. Et c'est ce changement de regard qui est à l'origine de toute la manifestation qui va démarrer la semaine prochaine, où on s'est dit, mais peut-être qu'on s'est planté dans la façon de concevoir la nature en ville, et si on considérait différemment la relation entre la nature et la ville. Donc on s'est dit, on met tout à plat, on se réunit, on apporte nos bagages, ce qu'on croit savoir, et à partir de ça, d'ici quelques mois, quelques années, on va proposer une nouvelle façon de concevoir la ville. Et on est très fiers que ça se passe à Marseille. Parce que l'idée, c'est on est vraiment sur le slogan « À Marseille, on dit souvent « ça part de là ». Là, on est là, dans le « ça part de là ». Simplement, ça sera de cet endroit. Ça fait un petit peu plus classe que le « ça part de là ». Mais vraiment, l'idée, c'est de ce quelques mètres carrés qu'on a essayé de végétaliser maladroitement, eh bien, peut-être qu'on va être amené à revoir complètement la place de l'homme par rapport à la nature dans un complexe urbain.
On fera une émission vendredi à 13h30, une émission spéciale en direct pour faire justement le bilan de tout ce que vous avez discuté dans cette journée de séminaire. Merci Thierry. Tatoni, je me tourne vers le collège des étudiants pour savoir s'ils ont une remarque à faire. C'est le moment, oui, Caroline.
Moi c'est Caroline, pareil, je suis donc étudiante. La question que je voulais poser, c'est pas vraiment une question en fait, mais j'ai l'impression que vous êtes quand même assez optimiste finalement pour tout ce qui est biodiversité en ville et du coup sensibilisation des Marseillais. Vous pensez qu'il y a de plus en plus de choses qui se font et des efforts qui sont faits ou pas vraiment ?
Non, pas du tout. C'est un peu une catastrophe actuellement entre la nature en ville à Marseille, c'est vraiment pas le top. Ceci dit... il faut qu'on soit délibérément optimiste si on veut arriver à changer les choses d'une façon ou d'une autre. Donc effectivement, oui, il faut être optimiste. Le constat est dramatique actuellement. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On fait ce constat-là, on s'assoit et on pleure, ça ne sert à rien. Donc s'il y a des petites choses à changer, ben autant le faire. Donc pour ça, il faut être optimiste. On dit que de toute façon, les choses doivent changer. Soit ça change intelligemment en s'y préparant, en réfléchissant, soit au moins ça prend plein la tête et ça changera de toute façon. Donc, il faut être optimiste, même si, raisonnablement, il n'y a aucune raison d'être optimiste.
Les centrales nucléaires rejettent des saloperies dans l'atmosphère. Pour faire de l'électricité, on a besoin de polluer.
Merci, voilà, c'était une manière de conclure, car il faut conclure. Émission réalisée par Jean-Baptiste. Une dernière quand même question avec ma petite... Pas une dernière question, mais allez, on va regarder à nouveau la petite carte. La gestion des déchets, Bouches-du-Rhône, 96e, je sais pas si je l'ai dit au départ, mais bon, voilà, hein, sur la question quand même de la biodiversité. Je pense qu'on peut peut-être considérer les déchets comme un élément de la biodiversité, mais ce serait peut-être abusé, non ?
Oui, c'est abusé. C'est un indicateur comme quoi l'homme est absolument incapable de s'autogérer. Alors, dans les Bouches-du-Rhône, on va arrêter là, mais si je pars là, je vais prendre une dimension politique, je ne suis pas sûr de pouvoir marcher tranquille après dans Marseille.
Thierry Tatoni, serez-vous le 12 décembre à Marseille ?
Oui.
Éventuellement, eh bien, voilà, je vous invite fortement à... Il y a un festival qui s'appelle Dansem, qui est un festival de danse du 9 au 14 décembre. Et puis, donc, le 12 décembre, s'y produira une artiste marocaine qui s'intitule Bouchra Wisgen, qui présentera la pièce A. Aussi, je vous donne bien deux invitations pour aller voir ce spectacle, Thierry Tatoni.
Merci volontiers.
Merci à vous d'être venus ici dans le studio de Radio Grenouille. Merci à vous, chers étudiants, d'avoir participé à cette émission. À très bientôt sur les ondes de Radio Grenouille.
Les documents de la grenouille. Chronique, émission spéciale, sélection musicale, radiogrenouille.com.